Donc, je reprends le cours de cette année. Je vous rappelle que, après avoir étudié les phénomènes de diffusion d'un photon ou d'un atome à l'ordre le plus bas, avec la règle d'or de Fermi, je suis passé à l'étude de phénomènes plus riches et plus complexes, où des effets non linéaires apparaissent. Et j'en ai introduit la semaine dernière, qui est la diffusion Rayleigh super-radiante d'un condensat de Bose-Einstein, où spontanément une cohérence macroscopique s'établit et une émission spontanée amplifiée se produit dans une direction définie. Il m'a semblé d'ailleurs utile de faire un appendice sur la super-radiance, et dans la dernière partie de ce cours, je rappellerai quelques notions importantes sur la super-radiance pour vous montrer l'analogie étroite qui existe entre les expériences que je vous ai décrites mardi dernier et la super-radiance. Aujourd'hui, donc, je vais aborder un autre sujet, c'est un sujet qui se situe dans le prolongement direct de celui de la semaine passée, qui est, je vais vous montrer que le dispositif d'un condensat, pompé par un faisceau laser intense, peut d'abord donner naissance à la super-radiance, d'une part, mais il peut également servir d'amplificateur. D'amplificateur pour des ondes de matière, d'une part, d'amplificateur pour des ondes optiques de l'autre. Donc aujourd'hui, j'ai étudié l'amplification cohérente d'ondes de matière par un condensat pompé par un laser intense, et mardi prochain, j'étudierai l'amplification d'ondes optiques par le même système. Donc, amplification cohérente d'ondes de matière. Alors, j'ai commencé d'ailleurs très brièvement à commenter le problème la semaine dernière. Et je vais d'abord souligner les différences qui existent entre un amplificateur d'ondes électromagnétiques et un amplificateur d'ondes de matière. Pour les ondes électromagnétiques, on peut créer des photons à partir de rien, par des processus d'émission de photons par des atomes excités. Pour les atomes, on ne peut pas les créer à partir de rien, sauf évidemment si on est dans le domaine ultra-relativiste. Donc il faut un réservoir et il faut transférer les atomes d'un réservoir vers le mode, entre guillemets, que l'on désire amplifier. Et ce transfert se fait par, dans les expériences que je vais décrire, ce transfert se fait par diffusion d'un photon. Diffusion d'un photon qui fournit l'énergie et l'impulsion nécessaires pour passer de l'énergie de l'impulsion des atomes du réservoir à l'énergie et l'impulsion du mode qu'on peut amplifier. Et dans l'expérience que je vais décrire aujourd'hui, le réservoir est un condensat de Bose-Einstein. Donc ce n'est pas n'importe quel type de réservoir, c'est un réservoir cohérent, avec des temps de cohérence très longs, et avec une grande densité d'atomes. Évidemment, personne n'a encore réussi à faire un amplificateur d'ondes de matière à partir d'un réservoir incohérent. Ça serait encore plus spectaculaire. Donc en quelque sorte, l'expérience que je vais décrire aujourd'hui, c'est un peu l'analogue des amplificateurs paramétriques de l'optique, où on utilise donc un amplificateur ou une partie du système qui contient déjà un laser pompe. Je vais donc, si vous voulez, rappeler d'abord et expliquer le mécanisme de gain. Donc, interprétation semi-classique du mécanisme de gain. Et puis ensuite, je décrirai deux expériences récentes qui datent d'un an. L'une réalisée à MIT, l'autre à Tokyo, mettant en évidence donc ce mécanisme de gain. Alors, l'idée physique est très simple. On a donc un condensat et on fait rentrer, on envoie sur ce condensat une onde de matière, je prends les mêmes notations que la dernière fois, de vecteur d'onde KJ. Cette onde de matière qui a une longueur de cohérence grande interfère avec le condensat pour donner un réseau de densité dont les plans des gaz densité sont perpendiculaires à KJ. Et puis, on applique en même temps un faisceau laser pompe K0 perpendiculaire à l'axe long du condensat. Et ce qui va se passer, c'est que le réseau de densité créé par l'interférence entre l'onde de matière incidente et le condensat va diffracter le faisceau laser pompe, il va le diffracter dans la direction de Bragg, ici, KI. Et à ce moment-là, quand un photon du faisceau pompe passe de K0 à KI, l'impulsion qu'il perd est transférée aux atomes du condensat et on vérifie exactement qu'il est diffracté dans la direction. Les atomes du condensat reculent dans la direction KJ. Autrement dit, il y a une onde KJ qui crée un réseau de densité. Ce réseau de densité diffracte le faisceau laser pompe et cette diffraction du faisceau laser pompe fait reculer des atomes supplémentaires dans la direction KJ et ça augmente le nombre d'atomes qui partent dans la direction KJ. Alors, si les atomes qui partent dans la direction KJ, si leur nombre augmente, l'interférence de l'onde de matière sortante avec le condensat va augmenter, le réseau de densité va augmenter. Donc, la diffraction du faisceau pompe par ce réseau de densité va augmenter, le recul correspondant va augmenter, KJ va augmenter, vous voyez qu'il y a une instabilité et que l'onde de matière KJ va augmenter exponentiellement avec un gain GJ qui est le même que celui que j'ai calculé dans le cours précédent. Évidemment, au bout d'un certain temps, il y a des mécanismes de perte à cause du temps de cohérence fini du condensat. Le fait aussi que le condensat se vide, au fur et à mesure qu'il envoie des atomes dans la direction KJ, il se vide, et on va limiter ce gain, comme toujours, quand une instabilité se produit, il y a ensuite des phénomènes qui stabilisent le système, et on va arriver à une équation du type N'J égale GJ moins LJNJ, où GJ est un coefficient de gain, LJ un coefficient de perte. Alors, c'est exactement ce que j'ai étudié la semaine dernière, mais la semaine dernière, je n'avais pas de bombe de matière entrante. Il y avait uniquement le faisceau laser K0, il y avait une diffusion Rayleigh qui se produisait dans une direction spontanée, une diffusion Rayleigh spontanée qui se produisait, un réseau de matière qui apparaissait à cause des atomes qui reculaient, et puis de nouveau la diffraction du faisceau laser pompe, et ça augmentait spontanément le nombre d'atomes qui reculaient dans la direction KJ. Et ce qui se passait la semaine dernière, c'est qu'à cause de la forme très anisotrope du condensat, la diffusion Rayleigh se fait préférentiellement dans la direction de l'axe long du condensat, parce que c'est là que l'angle solide de diffraction est le plus grand, et à ce moment-là, on a une diffusion Rayleigh spontanée, préférentielle dans une direction donnée, et le phénomène s'amplifie tout seul, avec création simultanée d'une onde optique dans la direction KI et d'une onde de matière dans la direction KJ. Ça, c'était de la superradiance spontanée. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on rentre une onde de matière incidente et on regarde comment elle est amplifiée, comment son amplitude et comment sa phase sont changées par le mécanisme d'amplification. Et je vais donc commencer par décrire l'expérience de MIT. Expérience de MIT, toujours dans le groupe de Wolfgang Ketterle. Et d'abord le principe de l'expérience. Et je décrirai ensuite les résultats et leur interprétation. Alors, l'expérience de MIT, je donne la référence ici, c'est la référence 21. Donc, Inouye, Pfau, Gupta, Chicature, Gorlitz, Pritchard et Ketterle, publié dans Nature en 1999. Là encore, comme s'il s'agit de Nature, je ne peux pas vous donner dans les notes les photocopies des figures correspondantes à cause des problèmes de copyright, je les montrerai, mais vous pouvez vous y reporter si vous désirez les avoir dans la revue. Alors, pour expliquer le principe de l'expérience, il faut que je parle de deux choses. Comment prépare l'onde entrante, comment l'amplifie et comment la détecte. D'accord, il y a donc trois phases. Et la première phase, donc, c'est préparation de l'onde entrante. Alors, l'onde entrante est préparée par diffusion de Bragg. Je vous rappelle en effet, je reviens à des cours du début de l'année, La relation de dispersion des excitations élémentaires dans un condensat homogène, c'est à peu près la même chose pour un condensat inhomogène, mais ça part linéairement et ça fait une parabole. Et une diffraction de Braque, ça revient à absorber un photon, hors résonance, bien sûr, et faire une émission stimulée. Donc on passe de K égale 0 au état du condensat à K0 moins KI égale KJ, onde de matière finale. Donc en appliquant deux faisceaux laser, le faisceau pompe K0 et le faisceau KI, pendant un certain temps, on crée une certaine quantité d'atomes transférés dans cet état d'impulsion, on crée une onde de matière. Alors, les deux lasers sont disposés comme c'est indiqué sur la figure. K0 est perpendiculaire à l'axe long du condensat, KI se propage le long de l'axe du condensat, et ils sont appliqués pendant 10 microsecondes, et l'intensité du faisceau pompe est suffisamment faible pour qu'on soit en dessous du seuil de superradiance spontanée. Donc, une fois qu'on a préparé l'onde entrante, il faut maintenant expliquer l'amplification. Alors, l'amplification est réelle. Alors, on coupe à ce moment-là le faisceau KI, bien sûr. Le faisceau laser KI est coupé. Et on augmente l'intensité du faisceau K0, du faisceau pompe. Et on laisse une période de 20 microsecondes. À ce moment-là, il y a l'onde de matière qui a été créée auparavant, qui crée ce réseau de densité, l'onde pompe est diffractée, et on s'attend à ce que l'onde de matière KJ soit amplifiée. Le faisceau pompe est réglé à 40 milliwatts par centimètre carré. Donc, après cette phase d'amplification, on coupe tout, le piège, également le piège, les atomes sont libres, il y a une phase d'expansion balistique, 35 millisecondes, beaucoup plus longue que les 20 microsecondes et les 10 microsecondes des phases précédentes. L'onde de matière qui a été amplifiée se sépare du condensat, et dans l'image de temps de vol, on doit voir le condensat et l'onde de matière amplifiée. Voilà le principe. Alors, quels sont les résultats? D'abord, quelle est l'image de temps de vol? Alors là, je vais montrer l'une des figures donc de Nature, que je n'ai pas mis dans les notes. Alors, la figure A, il y a une onde de matière entrante. On a fait l'onde de matière entrante, mais on n'a pas mis l'amplificateur. On a sauté la phase d'amplification. À ce moment-là, on devrait voir quelque chose là. L'onde de matière sort entrante et qui part, hein, qui donne une image de temps de vol, mais la sensibilité de la détection est insuffisante pour la voir. Image B, on ne met pas d'onde de matière entrante, mais on met l'amplificateur au-dessus du seuil du superradiant spontané. Donc, à ce moment-là, même sans onde entrante, il devrait y avoir une onde sortante dans la direction KJ, parce qu'il y a l'effet de superradiant spontané que j'ai décrit la semaine dernière, et puis une onde optique qui part dans cette direction. Mais là encore, la sensibilité est insuffisante pour le voir. Et ici, la troisième figure, on met une onde de matière entrante, on met la phase d'amplificateur, et on distingue ici le nuage d'atomes amplifiés. Alors, La figure est plus belle sur le magazine. Ici, la reproduction est moins bonne, mais Keterle a fait un séminaire à Cargèse cette année où il a montré des photos meilleures. J'en ai pris une sur le web et je vous la donne ici. Donc ça, c'est le cours de Keterle à Cargèse en juillet dernier où on voit les choses beaucoup mieux. Donc ça, c'est le schéma de principe. Donc la lumière de pompage, le condensat, les atomes qui rentrent, qui sont amplifiés, qui sortent. Alors ici, en bas, ce coup-ci, la sensibilité est suffisante pour voir l'onde entrante sans amplification. Et puis, quand on met l'amplification, l'onde sortante est plus grande ici, et le condensat est plus petit parce que une partie des atomes du condensat a été transférée dans l'onde sortante. Donc voilà la mise en évidence qualitative du processus d'amplification. On peut maintenant étudier le gain, la courbe de gain. Alors, je reviens à la figure précédente. Alors, on varie maintenant le nombre d'atomes dans l'onde entrante, n in, normalisé par rapport au nombre d'atomes du condensat. Donc, on augmente le nombre d'atomes dans l'onde entrante. Alors, pour ce faire, c'est facile. Il suffit de régler l'intensité des deux faisceaux qui créent la diffusion de Bragg. Et vous allez me dire, mais comment on peut le régler puisqu'on ne le voit pas, l'onde sortante, on la voit très mal. La réponse est la suivante, on se met une intensité beaucoup plus forte pour la voir, et on connaît les formules théoriques, donc on calibre l'appareillage en regardant l'onde entrante quand elle a une intensité beaucoup plus importante, et on connaît les lois de la diffusion de Bragg, et on extrapole l'intensité plus faible pour savoir le nombre d'atomes qui rentrent dans le condensat. Donc on augmente le nombre d'atomes qui rentrent, et voilà le nombre d'atomes qui sortent. Et on trouve ici un gain d'un facteur 30. Donc le gain d'amplificateur, d'onde de matière, est en nombre d'atomes. Le nombre d'atomes peut arriver jusqu'à un facteur 30. Alors ça ne suffit pas. On peut se poser la question, on augmente l'amplitude de l'onde par un facteur racine de 30, puisque c'est le nombre d'atomes qui est augmenté par 30. Est-ce qu'on préserve la phase? Est-ce que l'amplificateur est cohérent? Et donc quelle est la phase de l'onde de matière? Donc il y a troisième problème qu'il faut maintenant étudier, donc après avoir étudié la courbe de gain, maintenant c'est l'étude de la phase. Alors, pour étudier la phase, il n'y a rien à faire. Il faut faire une expérience d'interférométrie, il faut faire interférer l'onde amplifiée avec une onde de référence. Alors, le principe est le suivant. Je m'embrouille dans mes nombres transparents. Oui, le principe est le suivant. On va donc faire battre l'onde de matière amplifiée avec une onde de matière de référence. Et on va étudier le contraste des interférences obtenues quand on varie la phase de l'onde de référence. D'accord? C'est ça le principe très, très clair. Comment prépare-t-on l'onde de référence? Exactement comme l'onde entrante, on la prépare par diffraction de Bragg. Donc maintenant, l'expérience se déroule de la manière suivante. Il y a une première phase de 10 microsecondes où on prépare par diffusion de Bragg l'onde entrante, puis on l'amplifie pendant 20 microsecondes. Puis pendant de nouveau 10 microsecondes, on génère une onde de référence par diffraction de Bragg. Alors, c'est des temps très courts, tout ça, les ondes elles n'ont pas beaucoup bougé pendant ces temps-là, elles vont se superposer, et suivant leur interférence, le paquet d'ondes qui va sortir, l'onde qui va sortir, l'interférence va être constructive ou destructive. Et on varie la phase de l'onde de référence. L'onde de référence est créée par diffusion de Bragg par deux faisceaux laser. Ces deux faisceaux laser sont créés à partir du même faisceau laser par un modulateur acousto-optique. Et en variant la phase du modulateur acousto-optique, on peut faire varier la différence de phase entre ces deux ondes et on peut varier la phase de l'onde de référence. Donc, le principe de l'expérience est décrit dans la figure 1 de la référence de Nature, est ici. Où on voit donc la première phase où on crée par diffusion de Bragg, l'onde entrante, la deuxième phase d'amplification où il n'y a que le faisceau laser tout seul, de nouveau les deux faisceaux, le faisceau laser pompe et le faisceau KI avec une phase ajustable qui crée l'onde de référence, et ensuite l'expansion balistique pendant 35 millisecondes, et on regarde le nombre d'atomes qui sortent dans la direction KJ. Et on vérifie, et on regarde comment le nombre d'atomes qui sortent dans la direction KJ varie avec phi. Alors, quel est le contraste qu'on attend? Quelle est la valeur théorique du contraste attendu? Appelons N1 le nombre d'atomes dans l'onde de matière entrante, incidente, appelons N2 le nombre d'atomes dans l'onde de référence de phase phi, alors on a l'interférence entre une première onde de matière racine de N1 et une deuxième onde de matière racine de N2 puissance phi, et suivant la valeur de phi, l'onde qui est la somme des deux va avoir une amplitude qui varie entre racine de N1 plus racine N2 quand l'interférence est constructive, ou racine de N1 moins racine de N2 quand l'interférence est destructive, et le contraste va être la différence entre N max qui est N1 plus N, racine de N1 plus racine de N2 au carré, pour le nombre d'atomes qui va être donc N1 plus N2 plus 2 racine de N1, N2, et N minimum, qui est N1 moins racine de N1 moins racine de N2 au carré, qui est N1 plus N2 moins 2 racine de N1, N2. C'est donc N max moins N min sur N max plus N min, c'est 2 racine de N1, N2 sur N1 plus N2. Voilà le contraste qu'on attend. En fait, les deux ondes peuvent, l'onde sortante amplifiée peut être distordue par le mécanisme d'amplification par rapport à l'onde de référence. Et en principe, si j'appelle phi1 et phi2, phi1 et phi2, les deux fonctions d'onde normalisées qui décrivent les deux paquets d'ondes sortants, leur recouvrement ne peut ne pas être égal à 1 s'il y a justement une distorsion, et il faut rajouter un produit scalaire phi1 et phi2 pour avoir la valeur du contraste attendu. Alors maintenant, quels sont les résultats? Alors, je voudrais d'abord montrer le résultat apparaissant sur la figure 3 de la référence Nature. Ça montre qualitativement le fait que l'amplification est cohérente. En effet, la courbe de gauche, ici, est obtenue en ne mettant pas d'amplificateur, en prenant une onde entrante importante, d'intensité importante, une onde de référence aussi, à peu près d'intensité comparable, et on voit qu'en les faisant battre, il y a un contraste qui est tout à fait respectable. Puis, on diminue l'onde entrante par un facteur considérable, sans l'amplifier. Et on voit à ce moment-là qu'on a diminué terriblement le contraste, comme c'est prévu théoriquement, puisque le contraste est proportionnel à N1. 2 racines de N1, N2 sur N1 plus N2. Donc on le discerne à peine. Puis, on met la phase d'amplification avec l'onde incidente ayant la même amplitude que ce qui est ici, et on voit réapparaître un contraste important, ce qui montre que l'onde a été non seulement amplifiée en amplitude, mais que la phase a été préservée d'une certaine manière, puisqu'on voit le contraste des franges augmenter. Ça, c'est qualitatif. Quantitativement, je vous présente ici la figure 4 de la référence 21, où on porte le contraste attendu, le contraste, pardon, des franges, en fonction du nombre d'atomes entrants, normalisé par rapport au nombre d'atomes dans l'onde de référence. Alors, la courbe, les ronds vides ici, correspondent au contraste des franges obtenues sans amplification. On a donc une onde entrante et l'onde de référence qui battent et qui donne ce contraste. Et la courbe entrée pleine, c'est la courbe théorique, calculée à partir de la formule que j'ai donnée tout à l'heure, et en prenant un recouvrement égal à 1, psi 1, psi 2 égale 1. Et ça, c'est le même contraste quand l'onde entrante est amplifiée. On voit qu'on a une augmentation de la visibilité d'un facteur 2. Comme N1 est beaucoup plus petit que N2, ça correspond donc c'est racine de N1, N2 sur N1 plus N2 varie à ce moment-là comme racine de N1 sur racine de N2. Donc c'est racine de N1 sur N2. Donc si on a une augmentation ici d'un facteur 2, ça veut dire que N1 sur N2 a augmenté d'un facteur 4. En fait, dans l'expérience ici, ce n'est pas un facteur 4, c'est un facteur 30. Ça montre que le contraste est moins bon que celui qu'on prédirait si le recouvrement était égal à 1. Et l'interprétation de cette différence, c'est que le recouvrement n'est pas égal à 1, qu'il y a une distorsion de l'onde amplifiée. C'est ce qui explique que l'amplification n'est pas parfaitement cohérente, elle n'est que partiellement cohérente. Voilà donc l'expérience de MIT décrite. Et alors c'est amusant parce qu'à peu près exactement au même moment, à un mois près, une autre expérience a été publiée par un groupe japonais, le groupe de Kozuma à Tokyo, et je vais maintenant décrire l'autre expérience. Kozuma, d'ailleurs, avait passé un séjour sabbatique chez Bill Phillips à Gettysburg, quelque temps auparavant. Et donc, je vais suivre le même plan. Donc, cette référence, c'est celle qui est ici. Kozuma, Suzuki, Tori, Sugiura, Kuga, Hagley et Deng, dans Science, et non pas dans Nature, dans Science. Là aussi, je ne peux pas mettre les figures sur les transparents, sur les notes, mais je vais vous les montrer. C'est vraiment ridicule, ce système. Bon. Alors, d'abord, le principe, alors c'est un peu amusant parce que la géométrie n'est pas la même. D'abord, les atomes ne sont pas les mêmes. Au lieu de travailler sur du sodium, comme l'expérience de MIT, ici l'expérience est faite sur du rubidium 87. Et dans cette expérience, la géométrie K0 perpendiculaire à l'axe long du condensat, KI parallèle à l'axe donc du condensat est abandonnée. Tous les faisceaux laser se propagent le long de l'axe du condensat. Donc le condensat a la forme d'un cigare horizontal. Et l'onde de matière entrante est réalisée par diffraction de Bragg, exactement comme dans notre expérience, avec deux faisceaux B et C, un faisceau oméga plus delta oméga, celui-là, un faisceau C oméga, et on crée donc une onde de matière entrante qui se propage dans cette direction avec un vecteur d'onde 2K. D'accord ? Donc ici, tous les vecteurs, K0, KI, KJ, sont tous parallèles. Ils sont tous parallèles ou antiparallèles le long de l'axe du condensat. Donc on crée une onde de matière entrant dans la direction Z. Alors cette onde de matière entrant dans la direction Z interfère avec le condensat et crée un réseau de densité maintenant dont les plans d'égale densité sont verticaux, perpendiculaires à l'axe Z. Alors, on applique à ce moment-là, donc après avoir créé l'onde de matière avec B et C, on coupe B et C, et on applique le faisceau laser pompe A, toujours dans la direction Z. Alors, ce faisceau laser va être diffracté par ce réseau de densité vers l'arrière, c'est ce que j'ai représenté ici en pointillé, et le recul communiqué aux atomes par les photons qui passent de cette direction à cette direction, qui est 2K, va éjecter des atomes du condensat avec l'ablution de K, et ça va augmenter l'onde de matière entrante qu'on avait réalisée juste auparavant. Donc c'est exactement la même séquence, amplification, on a création de l'onde de matière, on coupe le faisceau qui crée l'onde de matière, et on applique le faisceau pompe qui amplifie l'onde entrante. Alors là, je viens à l'image. Voilà la figure de Nature. Les deux faisceaux B et C, c'est les flèches rouges qu'il y a là. B et C, oméga plus delta oméga, qui font passer de P égale 0 à P égale 2 tâche bar K. Et puis on les coupe et après on applique le faisceau A, le faisceau pompe, dans cette direction. Alors, je montre maintenant un premier résultat A, où il y a seulement le faisceau pompe A. On n'a pas créé d'onde de matière entrante. Seulement le faisceau A. Ici, vous voyez les polarisations qui sont ici, sont perpendiculaires au plan du tableau. À ce moment-là, la diffusion Rayleigh dans cette direction peut se faire. Elle n'est pas inhibée par la polarisation, comme vous avez expliqué la semaine dernière. À ce moment-là, l'effet de superradiant spontané peut apparaître. On ne l'a pas inhibé volontairement. Et ici, dans B, l'intensité du faisceau pompe tout seul, il n'y a pas eu de phase de préparation de l'onde entrante. Il n'y en a pas eu. Il y a uniquement A. L'intensité de A est suffisante pour qu'il y ait l'effet de superradiant spontané qui se produit. Et effectivement, dans l'image de temps de vol, ça c'est le condensat, et ça c'est les atomes qui ont été créés par diffusion Rayleigh superradiant dans cette direction. Et vous voyez qu'il y a la majeure partie des atomes du condensat ont été éjectés dans cette onde de matière créée par superradiant spontané. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, on passe ici, à C. À ce moment-là, pour supprimer cet effet de superradiance spontanée, alors ici, on comprend bien, ce groupe d'expérimentateurs ne pouvait pas inhiber l'effet de superradiance spontanée par polarisation. Il aurait fallu qu'il polarise les faisceaux laser dans cette direction pour empêcher la diffusion relais dans cette direction. Mais c'est pas possible avec cette configuration. D'accord? Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont toujours seulement A, mais ils appliquent A, pas tout de suite, après avoir coupé le piège et avoir laissé le nuage pendant une certaine période d'expansion balistique. À ce moment-là, comme vous le savez, l'anisotropie du nuage change au cours de l'expansion balistique, ça passe d'une cigare à une crêpe. Et à ce moment-là, si la forme du cigare change, s'il n'est plus anisotrope, la superradiance spontanée ne se produit plus, et on la supprime de cette façon. Donc, en appliquant le faisceau laser A après une période d'expansion balistique qui a changé l'anisotropie du condensat, on constate effectivement qu'il n'y a plus d'onde de matière sortante, il n'y a plus de superradiance spontanée. Alors, troisième étape, une fois qu'on a donc supprimé la superradiance spontanée, on recommence l'expérience en appliquant uniquement B et C, pas A, pour créer l'onde de matière entrante. Et là, à la différence de tout à l'heure, vous voyez, on voit bien l'onde de matière entrante. Ici, il y a 6,5% des atomes du condensat qui ont été mis dans l'onde entrante. Et enfin, dernier point, on applique B et C pour faire l'onde entrante, puis on coupe B et C, on applique A. Et vous voyez à ce moment-là, très nettement, très, très belle, une très belle image de l'onde sortante qui est amplifiée par rapport à l'onde entrante tout à l'heure, qui montre l'apparition d'un gain en nombre d'atomes. Donc vous voyez les différentes étapes de l'expérience. Et alors, de même que dans l'expérience de MIT, on peut calculer, on peut étudier la courbe de gain. Et on voit ici que le nombre d'atomes dans l'onde sortante, en fonction de la durée du pulse amplificateur, A, en microsecondes ici, 100 mètres d'onde entrante, ben ça ne change pas, il n'y a rien. Hein. Et en mettant une onde entrante, ça augmente, et on obtient un gain appréciable du même ordre de grandeur, un gain de 30, là aussi. Et la courbe qui est ici est une courbe calculée à partir de l'équation N'J égale GJ moins LJ, NJ plus 1, la courbe de gain et de perte. Et pour tout à l'heure, je vous montre ici l'image du condensat et de l'onde amplifiée quand on règle le niveau d'amplificateur à une valeur telle que le nombre d'atomes sortants, amplifiés donc, est égal au nombre d'atomes qui restent. D'accord? Donc on est parti de 6,5% d'onde entrante, et on règle le gain d'amplificateur pour que ces 6,5% se transforment en 50%. Et à ce moment-là, on a autant d'atomes qui restent dans le condensat que d'atomes qui sortent dans l'onde amplifiée. C'est important pour tout à l'heure. Donc on sait régler ça. Et je montre cette photo pour que vous voyez également que le processus d'amplification distord les fonctions d'onde. Le condensat était rond tout à l'heure, vous voyez qu'après amplification, il est un peu tordu et la fonction d'onde des particules qui sortent ne ressemblent pas complètement à la fonction des particules qui règnent. Qu'explique pourquoi psi 1, psi 2 ne peut pas être égal exactement à 1. Donc tout ça, je l'explique dans les transparents. Et je passe maintenant au transparent 213, oui, qui est étude de la phase de l'onde amplifiée. Alors, c'est intéressant parce que ça me donne l'occasion ici de décrire une autre expérience réalisée par le groupe japonais pour étudier l'interférence entre deux ondes de matière, qui est une transposition à l'optique atomique de ce qu'on connaît bien en optique, qui est l'interféromètre de Max Zander. Donc, le groupe de Tokyo a mesuré la phase de l'onde amplifiée au moyen d'un interféromètre de Max Zander. Alors ce coup-ci, comme il est publié dans FISREV, et que FISREV accepte cette fois-ci, je peux donc dans les notes sortir la figure correspondante, et donc dans la référence 23, FISREV A61, de Tori, Suzuki, Kozuma, Sugura, Kuga, Deng et Hagley, voilà le principe d'un interféromètre. Alors ils appellent ça Max Zander, Bragg, parce que les paquets d'ondes sont créés par diffusion de Bragg. Alors comment ça marche? On part d'un condensat et on le laisse tomber. Il tombe dans le champ de gravitation. Donc on a coupé le piège. Et puis on applique toujours ces deux ondes-là une première diffusion de Bragg dans un régime où la fréquence de Rabi est suffisamment grande devant la largeur des raies pour qu'on soit dans un régime d'oscillation de Rabi et non pas dans un régime de décroissance exponentielle. Donc on a une oscillation de Rabi entre les états P égale 0 et P égale 2 h barca et on règle la durée de l'impulsion et son intensité pour faire une impulsion pi sur 2. Auquel cas, après l'impulsion pi sur 2, on a une superposition cohérente de l'état P égale 0 et de l'état P égale 2 h barca. D'accord ? Et elle est cohérente, hein, parce que ce processus-là est un processus cohérent. C'est une précession de Rabi entre ces deux états, couplée par cette transition à deux photons. Puis, un instant delta t après, on applique maintenant une impulsion pi. Alors, une impulsion pi, en termes de spin fictif, ça fait passer de plus à moins, et de moins à plus. Donc l'état p égale 0 se transforme en 2f par k, et l'état 2f par k se transforme en 0. Donc on interchange les impulsions des deux paquets d'ondes. Et un instant delta t après encore, on applique une seconde impulsion pi sur 2 qui va remélanger les deux paquets d'ondes. Et on va avoir ici une voie de sortie en 0, une voie de sortie en 2h bar k. Et la dernière impulsion pi sur 2, on fait varier sa phase. Et suivant la phase, tout va sortir là, tout va sortir là. Et c'est exactement l'équivalent d'un interféromètre de Mach Zehnder où on rentre un faisceau lumineux comme ceci. Donc ça c'est le faisceau entrant, ça c'est l'équivalent de la première impulsion pi sur 2, ça c'est l'impulsion pi, et puis ici l'impulsion pi sur 2 qui recompose les deux faisceaux. Donc c'est exactement donc un interféromètre de Mach Zehnder, la seule chose c'est que la lame séparatrice ici, le miroir ici, sont remplacés par des diffractions, des diffusions de Bragg, pi sur 2 ou pi. Alors on peut calculer par la mécanique quantique, bien sûr, l'influence de chaque impulsion. C'est ce que j'ai fait dans ce transparent. Après la première impulsion, on a cet état. Après la deuxième impulsion, on change P égale 0, P de l'âge marquant réciproquement, on a cet état. Et après la troisième impulsion, applique un temps delta t avec une phase phi, toujours avec le modulateur acousto-optique dont on change la phase, on a ceci. Alors je m'excuse ici, il y a un lapsus, c'est 2 ici. Et on en déduit que les probabilités dans les deux voies, en fonction de la phase, c'est 1 demi de 1 plus cosinus phi pour P égale 0 et 1 demi de 1 moins cosinus phi pour P égale 2h bar k. Alors, si vous êtes un peu mal à l'aise à propos de ce calcul, je préfère vous en donner une démonstration géométrique. Moi, j'aime mieux les images en termes de spin fictif. En termes de spin fictif, dans le référentiel tournant, si on est juste à résonance, il n'y a que le champ B1 qui est le long de l'X. Ça, c'est dans le référentiel tournant. Et initialement, mettons qu'on a le spin dans cette direction-là. Dans le spin delta plus. Après la première impulsion pi sur 2, le spin a basculé là. Je vais le faire en bleu. Bon, jaune. Bon, c'est pas terrible. Il est là. Il a basculé l'impulsion pi sur 2. Après l'impulsion, si je suis juste à résonance, dans le référentiel tournant, les deux systèmes évoluent à la même fréquence, oméga 0 et oméga, donc l'angle entre le champ effectif B1 et le spin fictif équivalent au système à deux niveaux ne change pas, il reste perpendiculaire. Et après l'impulsion pi, qu'est-ce qu'il fait? Le spin fictif, il va faire une rotation pi, il va venir là. Si je suis toujours à résonance, s'il n'y a pas de déphasage dans les impulsions, la dernière impulsion pi sur 2 va me ramener là. Donc si on est exactement en résonance et si toutes les impulsions ont la même phase, partant de plus, on doit retourner sur plus, partant de moins, on doit retourner sur moins. Et c'est bien ce qu'on vérifie ici. P de P égale 0, si je prends phi égale 0, c'est 1 demi de 1 plus 1, c'est-à-dire 1, je reviens sur plus. Si je pars de moins, je reviens sur moins. Si je pars de plus, je reviens de plus. Par contre, si je déphase l'impulsion pi sur 2 après, vous voyez que si je tourne le champ B1, avant la deuxième impulsion pi sur 2, à ce moment-là, si par exemple je l'ai tourné de pi sur 2, je n'aurai plus du tout de précession de la remorque autour de B1 dans la deuxième impulsion pi sur 2, et à ce moment-là, ça va me changer la probabilité d'être dans plus et dans moins. Donc, en changeant phi, on va avoir les deux fonctions oscillantes, 1 plus cosinus phi sur 2 et 1 moins cosinus phi sur 2. Alors ça marche très bien. Voilà par exemple, toujours dans l'article de Physical Review, pour montrer la possibilité de faire cet interféromètre, voilà d'abord le réglage de la durée des impulsions. Vous voyez, ça peut être fait de manière très précise. Pour 40 microsecondes d'impulsion, vous voyez qu'ici, on a deux tâches P égale 0, P, 2 alpha bar K de même intensité. Donc on a bien séparé les deux, le condensant en deux morceaux d'égale intensité. Et puis si on double la durée d'impulsion, on n'a plus que la tâche P égale 2 alpha bar K, la tâche P égale 0 a disparu. Donc on peut régler expérimentalement l'intensité et la durée de chaque impulsion pour faire des impulsions 0, pi sur 2 ou pi. Et voilà le contraste des franges dans cette expérience. On voit un contraste parfait. Ça c'est P égale 2 alpha bar K, P égale 2 alpha bar K, qui doit partir de 0 quand le déphasage est nul, et c'est un contraste de 100%. Donc, cet interféromètre marche très bien. Et maintenant, je vous montre maintenant comment ils l'ont appliqué à l'onde de matière amplifiée. Et là, je reviens à l'article de Science, qui n'est pas donc dans les notes. C'est la figure 3 de la référence 22. Alors, l'expérience est faite de la manière suivante. On part du condensat dans le piège magnétique, avec la forme de cigare. On coupe le condensat tombe, on crée l'onde de matière entrante et la phase d'amplification, on crée l'onde de matière entrante avec B et C, 6,5% d'atomes dans l'onde de matière entrante, on applique ensuite le laser pompe et on règle la durée de l'amplification pour réaliser 50%, c'est la figure que vous avez montrée tout à l'heure, 50% dans l'onde de 2 alpha bar K et 50% dans le condensat restant. Autrement dit, on règle l'amplification pour qu'on passe de 6,5% à 50%. Et on dit la chose suivante, si le processus d'amplification est cohérent, l'ensemble de cette opération et cette opération, ça revient à faire une impulsion pi sur 2. Ce n'est pas une impulsion pi sur 2, mais on fait une impulsion qui crée une toute petite onde entrante, on l'amplifie jusqu'à 50%, l'ensemble des deux, si l'amplification est cohérente, ça revient à faire une impulsion de pi sur 2. Puis on refait comme tout à l'heure, on les laisse tomber, en plus, une impulsion pi de Bragg, et de nouveau une impulsion de pi sur 2, et on regarde la sortie P égale 0, P égale 2 h bar K. D'accord? Donc on refait un interféromètre de Max van der Bragg. La seule différence, c'est que la première impulsion pi sur 2 dans l'interféromètre précédent est remplacée par préparation d'une onde entrante, puis amplification pour avoir la moitié des atomes dans l'onde sortante. Et quels sont les résultats? Qu'on fait varier donc le déphasage de la deuxième impulsion pi sur 2. Voilà le déphasage. Il y a un beau contraste. Il y a un beau contraste, mais il est de 71% et non pas de 100%. Donc là encore, ça montre que l'amplification n'est pas parfaitement cohérente. Elle n'est que partiellement cohérente. Alors, il y a un petit raisonnement dans l'article que j'ai eu du mal à remettre en ordre et à comprendre. Imaginons que le processus d'amplification donne naissance à une longueur de cohérence qui est tellement petite qu'on ne peut plus avoir d'interférence avec l'onde amplifiée. D'accord? Quand on passe de 6,5 à 50%, la différence entre 50 et 6,5 soit complètement incohérente avec le condensat. Alors, il va quand même y avoir des formes d'interférence. En effet, l'onde entrante, 6,5%, elle est cohérente avec le condensat, avec les 100% moins 6,5. Alors, une partie du condensat a été transférée dans l'onde sortante. Et si ce transfert est incohérent, ce qui reste, les 50%, eux, sont restés cohérents avec les 6,5. Donc le raisonnement du groupe japonais, c'est de dire qu'il va quand même y avoir des interférences liées à l'interférence entre les 6,5% qui sont rentrés et les 50% du condensat qui n'ont pas été transférés. Et à ce moment-là, si on prend la formule 2 racine de n1, n2 sur le nombre total, on va avoir un contraste qui est 2 fois racine carrée, si on normalise tout à 1, en prenant 6,5% et 50%, de 2 racine de 0,065, que multiplie 0,5. Ça fait l'onde en France, ça fait l'onde, la partie du condensat qui n'a pas été touchée, divisé par 1, parce qu'on a tout normalisé à 1, et ça en trouve 36%. Le fait qu'on a 71% et non pas 38% montre qu'il y a eu une partie quand même de l'amplification qui est cohérente. Donc c'est peut-être un peu plus quantitatif que dans l'autre expérience. Alors là aussi, la différence entre 71% et 100% est liée au fait qu'on voit bien sur la photo que les deux ondes ne se recouvrent pas parfaitement. Voilà donc où j'en ai pour l'amplification d'ondes de matière. La semaine prochaine, j'étudierai l'amplification d'ondes optiques, mais puisqu'il me reste encore à peu près un quart d'heure, ce que je voudrais, c'est vous rappeler quelques notions importantes sur la superradiance, parce que ce phénomène est important et il représente beaucoup d'analogies avec ce que je vous ai discuté pendant ces deux derniers cours. Donc je fais maintenant un appendice très bref sur la superradiance. Alors, cette notion a été introduite par le physicien Dicke dans les années 50. J'ai donné les références dans le précédent cours. Et le phénomène est le suivant. On a un ensemble de n atomes à deux niveaux. On les prépare tous dans l'état excité par une impulsion. Et ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir une décroissance exponentielle, comme c'est le cas qu'on a un seul atome excité, quand il y a plusieurs atomes excités, dans un volume suffisamment petit, que je vais le préciser dans un moment, à ce moment-là, les dipôles atomiques se mettent en phase les uns avec les autres, et l'émission spontanée se fait beaucoup plus rapidement. Il apparaît un dipôle géant, ce qui n'est plus le dipôle élémentaire de chaque atome, mais une somme cohérente des dipôles de chaque atome, et à ce moment-là, l'émission spontanée se fait beaucoup plus efficacement. Alors, le modèle initial de Dicke, il prenait un atome excité dans un volume dont l'extension spatiale est petite devant la longueur d'onde. Ce n'est pas très réaliste parce que quand on a des atomes dans un volume petit devant lambda, c'est-à-dire que la distance entre atomes est plus petite que lambda, et à ce moment-là, les interactions électromagnétiques entre les atomes sont suffisantes pour brouiller le phénomène précédent. Mais quelque temps après, on a étendu ce système à des atomes contenus dans un volume allongé en forme de cigare. Et à ce moment-là, on a un problème qu'on peut remplacer par un problème monomode. La distance entre atomes peut être plus grande que lambda à ce moment-là, mais le phénomène, comme je vais vous le montrer, est très voisin du précédent. Alors, prenons d'abord le modèle initial de Dicke, le modèle où tous les atomes sont dans un volume petit devant lambda. Et ce que je vais vous montrer, c'est que si on part à t égale 0 d'un état où les n atomes sont tous dans l'état excité, et le problème est équivalent, formellement, à l'émission spontanée d'un moment cinétique J égale n sur 2. Partant de m égale j, partant de la valeur la plus grande de m. Alors, pour cela, on revient toujours à l'image très simple qui consiste à associer un atome à deux niveaux et g un spin 1/2 fictif, et on associe plus, g on associe moins. L'opérateur qui fait monter de g à e, quête e bras g, c'est l'équivalent de s plus, qui fait passer de moins à plus. L'opérateur GE, c'est l'équivalent de S moins. Et l'opérateur SZ, c'est 1/2 de EE moins GG. La valeur moyenne, c'est la différence des populations de E et de G. Et évidemment, si je prends le commutateur de S plus avec S moins, on vérifie évidemment que le commutateur de S plus avec S moins, c'est 2SZ. Bon, si je prends maintenant, quelle est l'interaction d'un tel atome à deux niveaux, d'abord, tout seul, avec le vide du champ quantique. Alors, on décompose, on prend tous les modes du champ électromagnétique quantique et l'interaction dans l'approximation du champ tournant, c'est S plus B alpha, S plus, le spin passe de moins à plus, et B alpha, un photon disparaît, donc pour passer de moins à plus, il faut absorber un photon, et S moins, pour aller de plus à moins, il faut créer un photon. Quand on passe de l'état excité à l'état fondamental, il y a un photon qui est émis. Donc B alpha et B alpha 3 sont les opérateurs d'annihilation et de création d'un photon du mode alpha. G alpha, c'est une constante de couplage. Il faut sommer sur tous les modes, Ça, c'est la Hamiltonienne d'interaction avec tous les modes qui sont initialement vides. Alors, vous allez dire, normalement, dans la Hamiltonienne d'interaction avec le champ électromagnétique, il y a une épuissance IKR ici, et une épuissance moins IKR ici. C'est ici qu'apparaît l'approximation, disait que tous les atomes sont dans un volume d'extension petite devant lambda. Si je prends KR, donc KR, si je prends tous les atomes dans un volume tel que KR est plus petit que 1, pour les modes voisins dont la fréquence est voisine de celle de la transition alpha, je peux remplacer tous les I puissance plus ou moins IKR par 1. D'accord? Tous les atomes sont dans un volume petit, suffisamment petit pour que tous les I puissance IKR puissent être remplacés par 1. Alors maintenant, si j'ai un atome à deux niveaux, pour l'atome I, j'ai S plus I, S moins I, S, I, S, I. Et je peux donc considérer le moment cinétique somme de tout le moment cinétique élémentaire, sigma I de 1 à N, de SI. Et je sais que quand je compose N spin 1/2, la valeur maximum du moment cinétique que je peux créer, c'est N fois 1/2. Donc c'est N sur 2. Donc J total va varier par unité de N sur 2 à 0. À 0 ou à 1/2 suivant que N est entier ou pair ou impair. Alors, quelle est la Hamiltonienne d'interaction de ces N atomes avec le champ du vide? Bien, la Hamiltonienne d'interaction de l'atome I, je viens de discuter tout à l'heure, c'est sigma alpha de G alpha S plus I B alpha plus S moins I B alpha 3. La Hamiltonienne d'interaction totale, c'est sigma sur I de 1 N de H1 I. Et quand je fais la somme de tous ces Hamiltoniens, je vois apparaître... Ah, là il y a une erreur, c'est sigma I... sigma alpha de G alpha, sigma I, et sigma I, ici, c'est le deuxième est correct, et sigma I de S plus I, c'est la somme de tous les S plus I, donc c'est JI, J, pardon, c'est J plus, et sigma I de S moins I, c'est J moins. Donc je peux réexprimer la Hamiltonienne totale en fonction de J plus et J moins, ou J plus et J moins sont les opérateurs J plus et J moins du moment cinétique total. D'autre part, l'état initial de mon système, c'est 1E, 2E, 3E, IE, NE, tous les atomes sont dans l'état excité. En termes de spin fictif, c'est 1 plus, 2 plus, 3 plus, I plus, N plus. Et cet état qui est complètement symétrique, c'est l'état de J maximum et de M maximum, M étant égal à N sur 2. Donc je pars d'un état de moment cinétique J égale N sur 2 et de norme quantique magnétique M égale J, égale N sur 2. Donc vous voyez que le problème est... apparaît de la manière suivante. On part à l'instant t égale 0 d'un état complètement symétrique, J égale N sur 2, M égale N sur 2, et la Hamiltonienne d'interaction affine, de même que la Hamiltonienne propre, dont je n'ai pas parlé, la Hamiltonienne qui décrit l'énergie des spins, qui est la somme sur tous les spins de H bar oméga 0 SIZ, c'est-à-dire H bar oméga JZ. Donc la Hamiltonienne d'interaction, la Hamiltonienne propre sont symétriques. Je pars d'un état complètement symétrique, donc je vais rester dans le sous-espace des états complètement symétriques. Et l'émission spontanée va se faire en laissant le système dans l'espace des états complètement symétriques, c'est-à-dire elle va se faire sans changer J, simplement M va passer de plus J à plus J moins 1, plus J moins 2, plus J moins 3, etc. Mais vous voyez ici que ça n'a rien à voir avec les bosons. C'est simplement que je suis parti d'un état qui est complètement symétrique, tous les atomes excités, et qui sont suffisamment proches les uns des autres pour que la Hamiltonienne d'interaction ne distingue pas leur position et soit aussi symétrique. Mais les atomes que j'étudie ici pourraient tout aussi bien être des fermions. D'accord ? Ils pourraient être des fermions. Donc ici, ça n'a rien à voir avec la statistique de Bose. Je pars d'un état qui est symétrique et j'ai un Hamiltonien qui est symétrique, donc le système reste complètement symétrique. Alors, je reviens maintenant à l'autre modèle, atome dans un volume en forme de cigare. À ce moment-là, je vais me prendre un modèle monomode, je vais prendre uniquement des modes du champ de rayonnement le long du cigare. Donc, les épuissances IKR, je peux les écrire épuissance IKZ ici, épuissance moins IKZ ici, et à ce moment-là, je ne peux pas les remplacer par 1. Parce que les atomes sont étendus sur une distance grande devant lambda. Mais alors, l'astuce, ça consiste à dire, on va introduire un autre moment cinétique, S plus I tilde, S moins I tilde, qui est donné par la formule S plus I et puissance IKZI, et S moins I égale tilde égale S moins I et puissance moins IKZI. Et vous vérifiez aisément que toutes les relations de commutation de ce moment cinétique tilde sont les mêmes que celles du moment cinétique ordinaire. En particulier, j'ai S plus I tilde égale commutateur avec F moins Z tilde égale 2F Z tilde. Et de sorte que si j'introduis donc ce moment cinétique qui obéit à toutes les relations de commutation caractéristiques du moment cinétique, je peux réécrire la Hamiltonienne d'interaction HI égale sigma alpha G alpha J plus tilde B alpha plus J moins tilde B alpha. J'ai oublié de mettre les chapeaux d'opérateurs ici. Et donc, j'ai un nouveau moment cinétique qui est... donc, je peux faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Évidemment, je fais une approximation ici, l'approximation monomode et l'approximation consistant à négliger la diffraction. Il y a une littérature immense qui a été écrite sur ces problèmes, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Alors maintenant, donc, je suis ramené à l'émission spontanée de moment cinétique. J'ai dessiné ici les niveaux d'énergie du moment cinétique. J, J-1, J-2, J-3. Le premier nombre, c'est le nombre quantique J. Le deuxième nombre quantique, c'est M. Jusqu'à J-J. Et puis, je peux aller de JJ à JJ-1, puis du JJ-1 à JJ-2, j'ai une cascade radiative. Parce qu'en effet, l'émission spontanée, la Hamiltonienne d'interaction, c'est J plus et J moins, ça ne peut changer M que d'une unité. Et la probabilité de transition de M à M-1, c'est proportionnel à l'élément de matrice de J- entre Jm et Jm-1, avec une constante de proportionnalité au carré. C'est constante dépendant des constantes de couplage, dépendant de l'élément de matrice du dipôle atomique, dépendant de la densité d'état. Ça, c'est la théorie de l'émission spontanée. Hein. Et cet élément de matrice, c'est Jj plus 1 moins mm plus 1, que je peux encore écrire J plus m, J moins m plus 1. Ça, c'est vraiment la théorie du moment cinétique quantique. Alors, on peut calculer C, très facilement, en prenant un cas particulier, le cas d'un seul atome. À ce moment-là, la probabilité gamma m, m moins 1, c'est gamma eg, gamma plus moins, c'est c, jj plus 1, 1 demi plus 1, moins mm moins 1, c'est 1 demi moins 1, ça c'est 3 quarts plus 1 quart, c'est c, donc gamma eg, c'est c, et ce n'est rien d'autre que la largeur naturelle du niveau supérieur d'un atome à deux niveaux. Donc toutes les transitions que j'ai calculées tout à l'heure, je remplace c par gamma, et j'ai gamma m moins 1 égale donc gamma jj plus 1 moins mm moins 1, et je peux en particulier calculer gamma de J vers J moins 1. Quand je remplace M par J là-dedans, j'obtiens, ça va me donner 1. Ça va me donner 2J. J'ai donc gamma de J. Et je vous rappelle que J, c'est N sur 2. Donc, de J, c'est N. Donc, gamma J, J moins 1, c'est gamma N. Gamma J moins 1, J moins 2. Si je prends M égale J moins 1, je vais avoir 2 ici. Et ici, je vais avoir 2N moins 1. 2J moins 1. Donc, je vais avoir 2 gamma N moins 1. Puis, 3 gamma N moins 2. Si je suppose que J est entier, je vais avoir un état M égale 0, et gamma 1, 0, gamma de M égale 1 vers M égale 0, si je fais M égale 0 dans cette formule, ça va être gamma J, J plus 1. Si J est très grand, c'est de l'ordre de gamma J2, et comme J est égal à N sur 2, c'est gamma de N2 sur 4, et ainsi de suite. Gamma de moins J plus 1 vers J, c'est gamma de J. J'ai oublié J ici. C'est gamma N. De sorte que, si je reviens à la cascade radiative, vous la voyez ici, je pars de J, J moins 1, J moins 2, et puis j'ai ici gamma N, puis ici 2 gamma N moins 1, qui est de l'ordre de 2 gamma N si N est très grand ou 1, 3 gamma N moins 2, qui est de l'ordre de 3 gamma N si N est très grand ou 1. Donc vous voyez, au fur et à mesure que le système descend, la probabilité de transition augmente, elle est 2 fois plus grande ici, 3 fois plus grande ici, ainsi de suite. Quand ça arrive au voisinage de 0, gamma de 1 vers 0, c'est gamma N2 sur 4. Donc je suis passé d'une loi en N à une loi en N2. Donc c'est énorme. Si N est très grand, c'est énorme. Donc vous voyez que l'émission spontanée est d'abord lente, et puis elle s'accélère de plus en plus, elle devient très rapide quand je suis à peu près au milieu de l'échelle, puis de nouveau elle va se ralentir, pour s'arrêter complètement ici, parce que quand je suis dans mon J, après, je ne peux pas aller plus bas. Donc, j'ai vraiment un phénomène où l'émission spontanée part avec une vitesse qui est gamma n, et puis elle va de plus en plus vite, et puis elle se ralentit, puis elle s'arrête. Alors, on peut essayer maintenant de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Alors, avant de dire ça, je voudrais faire une petite remarque ici, pour vous montrer à quel point il faut se méfier des problèmes de stimulation bosonique. Un état tel que M, M, un état tel que J égale M, un état où il y a le nombre quantique vaut M, je vous rappelle qu'on a toujours des spins à demi, hein, ou des atomes, N atomes à deux niveaux. J'ai N plus atomes dans l'état plus, et N moins atomes dans l'état moins. Et j'ai bien sûr N plus N moins égale N. J'ai N atomes, il y en a un certain nombre qui sont dans l'état E, un certain nombre qui sont dans l'état G. Donc j'ai N plus N moins égale N. Maintenant, quelle est leur contribution à M? Les atomes qui sont dans l'état plus contribuent à M par 1 demi, et ceux qui sont dans l'état moins contribuent à M par moins 1 demi. Donc M, c'est égal à 1 demi fois N plus, moins 1 demi fois N moins. D'autre part, j'ai N égale 2J, J égale N sur 2, donc j'ai N plus N moins égale 2J, N plus, moins N moins égale 2N. La résolution de ce système me donne N plus égale J plus N, N moins égale J moins N, et si je reviens à la probabilité de transition gamma M moins 1, je peux l'écrire sous la forme gamma J plus M, J moins M plus 1, je peux l'écrire gamma N plus, facteur de N moins plus 1. Alors, quand j'ai dans l'état M, j'ai N plus atomes dans l'état plus, N moins atomes dans l'état moins. Pour passer de l'état M à l'état M moins 1, il y a un spin qui doit passer de l'état plus à l'état moins. Et bien, on s'aperçoit que cette probabilité est proportionnelle au nombre d'atomes qu'il y a dans l'état plus, c'est assez logique, que multiplie le nombre qu'il y a dans l'état moins plus 1. Donc, ça rappelle beaucoup le facteur de stimulation bosonique. La probabilité d'une transition est égale à la probabilité du nombre d'atomes de départ, que multiplie la probabilité du nombre d'atomes d'arrivée, plus 1. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien que ça ressemble beaucoup à un facteur de stimulation bosonique, ça n'a rien à voir avec les bosons. Parce que les N atomes EG que j'ai introduits pourraient être des fermions, ça pourrait être des atomes de deutérium, ça pourrait être des atomes de lithium. Si, ça n'a rien à voir avec le caractère boson ou fermion des atomes. Ça a uniquement à voir avec le fait que j'ai préparé mon système dans un état symétrique et que la Hamiltonienne d'évolution est symétrique. Alors si évidemment je reste dans l'état symétrique, toute la mathématique des bosons s'applique et je retrouve le même résultat qu'avec des bosons. Évidemment, ce qui est important ici, c'est quand même que les photons qui sont émis et qui sont dans l'émission spontanée, eux sont des bosons. Et ça intervient. Mais par contre, la statistique des atomes émetteurs dans le phénomène de superradiance ne joue pas de rôle. Elle semble jouer un rôle tout simplement à cause des mathématiques qui sont les mêmes que pour des bosons. C'est le problème des états complètement symétriques. Je voudrais enfin terminer par deux ou trois transparences sur pourquoi la cascade radiative s'accélère-t-elle. Eh bien, c'est que au début, les atomes sont complètement incorrélés. Et ce que je voudrais vous faire, le message que je voudrais transmettre, c'est qu'au fur et à mesure que les photons sont émis, des corrélations apparaissent entre les dipôles des atomes émetteurs. Les dipôles qui étaient complètement incorrélés vont se corréler de plus en plus, et c'est ça qui va expliquer que l'émission instantanée va être de plus en plus grande. Peut-être le plus simple, c'est de faire ça avec deux atomes, d'abord. Je prends le cas simple de deux atomes. À ce moment-là, J égale 1. J'ai deux atomes, l'état initial 1 et 2 et, c'est J égale 1, M égale 1. Si le moment dipolaire, D, en appelant delta l'élément de matrice du moment dipolaire, le moment dipolaire de l'atome I, c'est delta I et IG plus IG IE, avec I égale 1, 2. Si vous prenez l'état J égale 1, M égale 1, je vous laisse faire à titre d'exercice que la valeur moyenne de D1, la valeur moyenne de D2 dans un tel état est nulle. Par contre, la valeur moyenne de D1 carré et la valeur moyenne de D2 carré vaut delta 2, et la valeur moyenne du produit D1 sur D2, D1, D2 est nulle, parce que si je choisis D1, je change un nombre quantique. Si je choisis D2, je change l'autre nombre quantique et je ne peux pas retomber sur mes pieds 1 et 2. D'accord? Donc ça veut dire que chaque dipôle a une phase aléatoire, sa valeur moyenne est nulle, sa valeur quadratique moyenne n'est pas nulle, mais qu'en plus D1, D2 égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux dipôles. Un photon est émis. Et ce photon peut être émis soit par l'atome 1, soit par l'atome 2. Donc après l'émission d'un photon, l'atome est une superposition de 1 plus, de moins, 1G de E et 1E de G. Ça rappelle beaucoup ce que je vous ai fait l'an dernier sur la phase relative de deux condensats. Quand on a deux condensats et qu'on détecte un premier atome, on ne sait pas si l'atome qu'on a détecté vient du condensat 1 ou du condensat 2. Et après la première détection, on a une superposition cohérente de deux états. Et c'est la même chose. Après la détection, après l'émission du premier photon, le système est dans l'état 1 sur racine de 2, 1G de E plus 1E de G. C'est l'état J égale 1, M égale 0. C'est l'état M égale 0 triplé. Et à ce moment-là, si je calcule D1, D2, valeur moyenne dans l'état 0, je trouve toujours 0. D1 carré, D2 carré, je trouve toujours delta 2. Mais si je calcule D1, D2 maintenant, je trouve quelque chose de non nul qui vaut delta 2. En effet, le premier D1 peut, par exemple, va me changer un G en 2E. Le deuxième D2 peut me faire passer de 2E à 2G. Et à ce moment-là, dans l'état, j'ai bien 1E 2G. Donc, le produit scalaire n'est plus nul. Et quand on fait le calcul, on trouve delta 2. Ça veut dire que, après l'émission du premier photon, la phase absolue de chaque dipôle est aléatoire. La valeur moyenne est nulle. Mais si je prends D1 fois D2, je trouve delta 2. C'est-à-dire, ou les dipôles sont comme ça, ou ils sont comme ça. Ils sont corrélés. Donc, ils oscillent avec une phase absolue qui est aléatoire, mais avec une phase relative qui est parfaitement définie. Ils oscillent en phase. Et c'est pourquoi ils vont rayonner beaucoup plus rapidement. Alors, ce que je dis ici pour un cas n égale 2, on peut le faire de manière plus générale pour un cas quelconque. L'opérateur dipôle, c'est delta plus moins plus, c'est, en termes de spin fictif, c'est 2 delta SX. Donc le dipôle total de mes n atomes, c'est 2 delta somme sur I de 1 à n de SX, c'est 2 delta JX, le JX c'est le moment cinétique total. Et dans un état JJ, je peux calculer la valeur moyenne de D, qui est nulle, puisque la valeur moyenne de JX dans l'état JJ est nulle. Je peux calculer la valeur moyenne de JX carré, c'est-à-dire la valeur moyenne de D2, en utilisant l'isotropie de l'état JJ. Jx carré plus jy carré, c'est la valeur moyenne, c'est la même chose que 2jx carré. Et jx carré plus jy carré, c'est j2 moins jz carré, donc c'est jj plus 1 moins jz carré. Donc jx carré, la valeur moyenne, c'est la moitié de cette valeur moyenne, c'est donc la moitié de jj plus 1 moins j2, c'est donc j sur 2, c'est n sur 4. Et la valeur moyenne de d2, qui est 4 delta 2 fois ceci, c'est n delta 2. Donc je trouve que dans l'état jj, la valeur moyenne du carré du dipôle total, c'est n fois delta 2. Les carrés des dipôles s'ajoutent, il n'y a pas de termes croisés, DI, DJ. Donc les N dipôles sont complètement incohérents les uns avec les autres. Par contre, si je suis dans l'état JM, le même calcul va me donner quelque chose qui est ceci. Et en particulier pour N égale 0, quand je suis à mi-chemin de la cascade, je trouve que delta 2, la valeur moyenne de D2 n'est plus n delta 2, mais elle vaut n2 delta 2 sur 2. Et ça, c'est facile à comprendre. Si tous les dipôles sont en phase, le dipôle total va être n delta, mais je suis passé de l'état jj à l'état j0, mais la phase absolue de ce dipôle total n'est pas nulle, donc la valeur moyenne du carré du dipôle total, c'est n2 delta 2 que multiplie la valeur moyenne du cosinus carré, c'est ça qui est 1/2. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que la cascade s'établit, se produit, les dipôles qui étaient complètement incorrélés au début se mettent en phase relative. La phase absolue est toujours aléatoire, mais ils se mettent en phase relative. Et quand on est à m égale 0, ils sont tous en phase. Simplement, la phase absolue est complètement aléatoire. Et c'est ça qui explique pourquoi l'émission spontanée va être de plus en plus importante. De sorte qu'en conclusion, on part d'un état où les dipôles ne sont pas corrélés, et que l'émission successive de photons introduit des corrélations entre ces dipôles qui croissent de plus en plus pour devenir maximale quand m égale 0, et à ce moment-là, l'émission est absolument géante, si n est très grand. Et ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu précédemment. Le premier processus de diffusion du faisceau-pompe fait apparaître un réseau de densité, puis le deuxième augmente le réseau de densité. Au fur et à mesure que le réseau de densité augmente, la diffusion de Bragg devient de plus en plus important, il y a une avalanche qui se produit, une instabilité qui fait croître de manière exponentielle le système, jusqu'à ce que le condensat soit complètement vidé, et auquel cas le système revient en arrière, et s'atténue et s'arrête. Donc il y a une analogie extrêmement profonde, et je pense qu'il y a aussi une analogie à ce que j'ai raconté l'an dernier sur la phase relative de deux condensats qui s'établit au fur et à mesure qu'on fait des processus de détection. Ici, la phase entre les dipôles s'établit au fur et à mesure qu'il y a des processus d'émission spontanée. Donc je m'arrête là aujourd'hui, je m'excuse, c'est un peu plus long. Et la semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer que ce dispositif amplifie non seulement les ondes de matière, mais il amplifie aussi les ondes optiques.